Bienvenue à la French Connection, épisode spécial avec Patrick.
Et bonjour tout le monde.
Et nous allons parler d'un peu le fiasco de Zoom qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines, mais qui vaut quand même la peine d'être parce que c'est eu un échec de communication, une drôle d'attitude de la part de Zoom et l'intervention connexe de Apple dans le contexte de comme bouger les choses. Fait que je vais laisser Patrick amorcer là-dessus.
Oui, ben exact. Ben pour commencer, en fait, Zoom, c'est notre record pour les podcasts. Là. On est présentement sur Zoom, se checker, faire des niaiseries.
Quelle ironie!
Oui, exact. Et c'est pour ça qu'on est dans le plan de se débarrasser de Zoom. Mais en gros, Zoom était quand même une compagnie assez récente, start-up, agile, si on peut dire. Mais on s'est rendu compte finalement qu'après cet épisode, ben pas cet épisode-là, mais cette vulnérabilité-là qui est arrivée, et finalement, elles sont très agiles peut-être en termes de vidéoconférence, mais pas en sécurité. En fait, la vulnérabilité, deux vulnérabilités qui ont été rapportées par un chercheur au début juillet, dont une qui permettait de faire un déni de service et l'autre de carrément utiliser, dans le fond, un lien Internet pour accéder des caméras, la vidéo et l'audio d'une personne sans qu'elle s'en rende compte. Fait qu'une personne à la fois. Et ça se trouve que l'exploit ou la vulnérabilité de ça, ce n'est pas une vulnérabilité, c'est plus un broken by design. C'est une feature qui n'avait pas d'affaire là. Et on aura dans les show notes là, l'exemple, la démo, et vous pouvez l'essayer vous-même. Je pense que vous êtes déjà patché rendu là, mais ça reste que ça fonctionne. Puis la démo est tout simplement une page web avec un iframe et l'iframe a un lien Zoom, donc une invitation vers une conférence qui est déjà en fonction. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc, si vous invitez quelqu'un sans qu'il le sache dans un URL qui est caché, que vous ne voyez pas à l'écran, là, que vous n'avez pas besoin de peser sur joindre l'appel ou quelque chose comme ça, ben c'était ça le bug, c'est qu'il... Tu pouvais joindre l'appel sans que personne te le dise. Ton browser acceptait puis rentrait tout simplement là, dans Zoom.
C'est vraiment une erreur de by design qui est assez étrange. Aussi, c'est fascinant pourquoi elle touche juste Mac dans ce cas-ci, mais j'ai bien l'impression que parce que les limitations de sécurité fondamentales dans le macOS ont fait que Zoom ont réfléchi à un moyen de parce que eux autres, leur défense, c'était pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais dans ce cas-ci, c'est une drôle d'approche d'avoir mis un serveur web pour améliorer l'expérience utilisateur.
Mm-hmm. Quand même un peu n'importe quoi. C'est là qu'Apple est rentré en ligne de compte. Et avant que Zoom fasse l'update, ils ont décidé d'enlever ce serveur web-là qui est installé par défaut dans les anciennes versions de Zoom, qui n'étaient plus vraiment utilisés et qui ont poussé un update transparent sur tous les Mac pour enlever ça. Par la suite, je pense que c'est une ou deux journées après, là, Zoom a été enlevé, le web serveur a fait d'autres correctifs, mais vous verrez dans les show notes un petit screenshot qui montre que ben, il n'y en a pas d'update de sécurité selon Zoom, c'est juste une mise à jour standard. On a décidé d'enlever ce qui n'est plus utilisé. Là, ils ont décommissionné quelque chose. Il n'y a aucun mot sécurité qui apparaît, donc ça montre l'intérêt et la compréhension de la sécurité dans les équipes de Zoom. Là, c'est un beau gros zéro. Il faut dire aussi que Zoom offre du white labeling, donc leur plateforme est redistribuée à d'autres entreprises comme RingCentral, qui était aussi vulnérable à ça. Donc, leur core, finalement, du logiciel qu'ils utilisaient, leur compagnie sœur, si on peut dire, là, était vulnérable. Donc ça, c'est un des bugs. Mais l'affaire, c'est qu'il y en a eu d'autres. Si vous regardez l'article de Medium dans les notes, il y a eu un bug qui est répertorié comme quoi qu'il y aurait un remote code d'exécution sur Zoom et les 13 white label applications qui leur appartiennent.
Donc, comment étendre le fun, c'est de créer une chose puis le white label pour que tout le monde propage ton problème finalement.
Oui, ben c'est le même concept qu'une genre de librairie populaire, que dès que tu réussis à mettre un bug dans une librairie, ben tout le monde est dépendant de ça. Fait qu'ils ont créé, ben ils utilisent le concept du white label, fait que ça fait la même chose puisque tout le monde utilise le code d'en haut, qui est Zoom. Donc, on parle de Ring Central, TELUS Meeting, BT, Cloud Phone, Office Suite et plusieurs autres, là, dont AT&T et certains autres. Donc, on voit qu'on a même des vulnérabilités. Là, quand on parle de TELUS, ben, c'est impliqué au Canada que beaucoup de vulnérabilités étaient reliées à ça aussi. Là.
Oui, puis c'est, globalement, c'est très décevant de voir à quel point ils n'ont pas traité la sécurité correctement. Puis parce que quand on lit l'article, le chercheur qui a trouvé ça a déclaré la faille à Zoom. Puis il l'a fait dans le bug bounty de Zoom. Et selon les conditions qui étaient appliquées, qu'il devait signer, il l'empêchait de divulguer. Et il a refusé de prendre l'argent, donc de signer le contrat, pour tenir Zoom, mettons, en veille. Puis, le premier correctif qui est sorti ne réglait pas vraiment le problème. Puis, de celle-là, ensuite, il est sorti public. Puis, c'est là d'où on a tout pris connaissance de ce problème-là aussi.
Oui, exact. Je veux dire, c'est un désastre quand même au niveau PR, processus de gestion des vulnérabilités ou juste de vulnérabilité tout court. Là. C'est n'importe quoi tant qu'à moi. Mais même... T'sais, la preuve totale, c'est le screenshot qui montre l'update. Là. Nous avons, voici la mise à jour de Zoom, mais il n'y a pas de mot de sécurité. Pour eux, c'était pas de la sécurité. Puis, même si ça n'était, peut-être que leur approche, c'était pas pour faire peur à personne ou pour pas perdre de crédibilité, mais ça reste que c'est encore pire, selon moi, parce que tout le monde sait que c'est un bug de sécurité.
Ça crée plus de bruit qu'autre chose. Ça, c'est comme faire de la mauvaise gestion de crise, un peu, tant qu'à ça, la Equifax. Qui a fait une espèce de déni majeur, puis tout le fiasco de PR que s'en est suivi parce qu'ils n'ont juste pas admis le problème, ils n'ont juste pas corrigé le problème au moment, puis le faire, puis dire, hey, on a corrigé vite, on est content. C'est juste se battre contre quelque chose qui existe. Ça a pris qu'Apple s'en mêle. C'est sérieux, là.
C'est énorme, là. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'Apple fait des updates transparents par en arrière pour faire des fixes. Mais habituellement, les fixes qu'ils font, c'est sur des malwares qui sont poussés puis qu'eux ont trouvé un fixe ou que la communauté l'a trouvé. Puis là, ils poussent ça en prévention. Non, c'est pas un malware. C'est un logiciel de vidéo à la bourse, je pense, même à cette heure. Là. Fait que, tu sais, ça va pas bien côté gestion de crise et gestion de vulnérabilité.
Oui, mais ouais. Imagine, c'est Apple vient de voir, dit « Dude, t'as pas fait ta job, j'ai affaire à ta place. »
Parce qu'Apple a décidé qu'il y avait un vrai risque, là. Et toute la communauté a décidé qu'il y en avait un. Je veux dire, c'est pas 12 petites entreprises PME qui utilisaient ça, là. C'est les plus grosses dans le monde, les plus grosses entreprises qui utilisent ça tous les jours pour moyens de communiquer, comme conférences, meetings, etc. Donc, imagine le nombre de données confidentielles sur ce genre de meeting-là. Ou, tu sais, tu load, t'envoies le lien à quelqu'un, puis ça load une conférence sans qu'il s'en rende compte. Puis c'est une personne dans une équipe de recherche et développement, puis t'entends toute la journée ou pendant des jours tout de quoi qu'il parle. Hey, c'est ça vaut cher, ça, là.
Bon, ça vaut très cher, mais cette erreur de design-là me fascine encore parce que je comprends que la meilleure expérience, mais maintenant, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Parce que les autres font ce genre de niaiserie-là qui essaie de contourner une limitation probablement inhérente au macOS par mesure de sécurité. Ils ont créé plus de problèmes que d'en régler.
Oui, exact. Puis, tu sais, si on revient à plusieurs épisodes en arrière spécial, l'épisode à propos d'Antidote, qui est une compagnie du Québec qui fait un petit logiciel assez niche, qui ont réussi à mettre les choses à jour, qui ont collaboré, etc., puis que, je veux dire, ils ont poussé un fixe écrit sécurité et n'ont pas caché ça en arrière pour rendre tout le monde vulnérable. Je veux dire, même une PME a réussi à faire mieux que Zoom. Je veux dire, c'est...
Mais en 2019, c'est fascinant, là. Ils y avaient tous ces gens-là pour penser qu'ils peuvent balayer ça en dessous du tapis comme ça. Ça se peut juste pas, là. C'est quasiment c'est une farce.
J'ai pas fait de la recherche, mais on peut presque le faire live. Mais tu sais, est-ce qu'il y a du monde qui travaille en sécurité tout simplement chez Zoom? Chef. Parce que, tu sais, pourquoi que quelqu'un agirait de cette manière-là? C'est parce qu'il n'est pas dans le domaine. C'est peut-être une compagnie qui est gérée un peu plus comme une vieille business, une shop ou quelque chose comme ça, mais...
Mais c'est, comme tu disais en entrée de jeu, c'est très particulier qu'une compagnie qui se dit agile, qui doit prendre des modèles de développement très modernes, ne fasse pas ce genre de choses-là, puis une gestion de crise qui est désastreuse. Puis encore, il y a une chose de bug bounty, puis ils font juste pas bien le gérer. C'est vraiment louche.
Ouais, exact. Oui, ils ont plein de monde en sécurité chez Zoom, mais ça aurait été surprenant qu'ils n'aient pas, là, considérant qu'un bug bounty, mais gérer un bug bounty, c'est pas si facile que ça. Fait que je peux comprendre, mais je veux dire, il y a une limite aussi à avoir de la difficulté puis faire ce genre de réaction-là. Ça montre que le management était pas appuie pas beaucoup, mettons, la sécurité aussi. Là. Même si tu as une vingtaine de personnes ou une dizaine en sécurité, s'ils n'ont pas de l'appui, ben, ils ont une job, mais c'est pas mal tout ce qu'ils ont. Hein.
Ouais, ben, tu sais, c'est qu'une vulnérabilité dans le code, il y a un problème de sécurité peut-être un peu plus classique, peut-être, là. Mais là, c'est une erreur de design.
Ouais, j'avoue, ça remonte au VP produit presque, là, lui qui s'occupe de gérer comment tout fonctionne. C'est sûr que c'est différent d'un XSS puis d'une injection quelconque, là.
Fait qu'ils ont dû revoir le fonctionnement de leur logiciel pour un palier au problème qui a été soulevé, qui est quand même assez majeur. En plus, un serveur web qui est tout le temps actif sur ta machine. Tu parles d'un drôle de plan.
Oui, ben tu sais, habituellement, on voit ce type de bug-là dans les laptops quand tu les achètes par défaut. Tu sais, Dell va pousser plein de cochonneries sur ton laptop pour avoir du support, puis de la pub, de l'analytique, puis t'es espionné presque. Dell et plusieurs autres. Puis souvent, tu vas trouver dans un vieux logiciel tout croche qu'il y avait un genre de serveur web caché à telle place. Pas aussi visible que Zoom, par exemple. Là. Mais tu sais, c'est dans ce genre d'entreprise-là, le logiciel-là, que tu vas trouver ce type de bug-là. Pas dans quelque chose d'aussi populaire à la start-up comme Zoom. Là. C'est ça qui est surprenant. Ils sont pas supposés d'avoir des manières de faire comme les années 90. Parce que la vidéo de genre, il n'y en avait pas il y a 20 ans. Là. C'est du full encrypted, live, pas de lag, que tu peux faire de l'enregistrement, du chat et autres. C'est récent, là.
Oui, c'est ça. Fait que c'est très étrange. En plus, j'imagine que la problématique, parce que Mac est très sandboxé comme système, j'imagine qu'il devait avoir deux boîtes qui devaient s'échanger l'information. Puis la façon qu'ils ont trouvé de contourner les limitations de Mac, c'est d'avoir développé leur propre bidule qui va justement contre la philosophie du sandboxing lui-même. Là.
Ouais, mais c'était peut-être même la raison officielle de départ. Là, on ne le saura pas, mais c'était peut-être une niaiserie dans ce sens-là.
Donc, le raccourci, ça a juste failé, là, mais fail at fail, là, c'est juste terrible. Là.
Exact. Fait que on espère que vous ne faites pas des approches de ce type-là dans vos entreprises. Puis en même temps, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plus ou moins de sécurité qui peuvent tomber dans la problématique que Zoom était, là, qui n'aurait pas dû être, mais je veux dire qu'eux ont été, mais qui est difficile à gérer quand tu n'as pas d'équipe de sécurité. Fait que je pense que c'est un autre exemple de plus qui montre l'importance d'avoir des équipes ou de payer pour avoir de la sécurité à l'externe. Là. Mais c'est important de faire la sécurité à partir du début du projet, pas des pentests à la fin quand c'est en prod. Ça, c'est du design. C'est la première chose au niveau de l'architecture sur papier qui ont parlé dans une réunion.
Oui. Des années correctement partant.
Oui, oui. Puis tu sais, quand on se fait appeler pour faire des tests d'intrusion, puis c'est la première personne qui est en sécurité sur un projet complet. Puis ça, j'aime ça pousser là-dessus. Au Québec, il y a beaucoup de firmes qui font du développement. Il n'y en a aucune qui ont des équipes de sécurité. Fait qu'on s'entend-tu que quand il y a un pentest, c'est toujours en prod à la fin. C'est un client qui le demande, là, généralement. Donc, évidemment que c'est rempli de bugs puis de mauvais design. Donc, j'ai hâte que les choses changent en ce niveau-là. Ouais.
Effectivement. Puis, de toute façon, ça fait également des années que ce que je dis essentiellement, c'est qu'un pentest n'est pas nécessaire. Une revue d'architecture est généralement est suffisante pour voir tous les problèmes sans avoir à regarder jusqu'au faire le test lui-même qui est juste.
Oui. Parce que, tu sais, si dans ton processus, tu commences aux réunions d'architecture sur... pas d'architecture, même de design, de parler de ce qu'il faut faire, là, puis de qu'est-ce qu'on veut faire. Si tu commences à parler déjà de sécurité-là, puis dans ton architecture, tu en as, puis rendu à l'implémentation, ben tu sais, tu as ton SDLC, là, tes programmeurs qui vont suivre la sécurité au niveau du code, au niveau des configs, etc. Quand tu es rendu à faire le pentest, à la fin, si tu trouves quelque chose, parce que tu as un oubli, ça se peut, il n'y a jamais rien qui est 100% parfait. Fait que tu vas trouver quelques low-hanging fruit, un ou deux bugs, mais tu n'auras pas un design, une affaire broken by design aussi flagrant que ça. Là. Puis le test, il est simple, là, parce que tu sais comment, qu'est-ce qui peut être malicieux avec de l'audio puis du vidéo? Quelle est la première chose qui vient en tête? C'est d'espionner du monde. Tu sais qu'on parle pas de bug applicatif, là. Tu sais, le concept du threat, c'est de l'espionnage. C'est quoi le premier test que tu fais? C'est d'essayer de faire de l'espionnage avec. Tu sais, ça aurait été trouvé, ça, il y a des années, là, ce bug-là.
Ouais, la définition de ta menace, c'est très important. Mais de toute façon, le modèle d'analyse de risque permet justement de repérer ce genre de choses-là dans un délai relativement court puis de mettre des efforts aux bonnes places.
Ouais, exact. Mais ça aussi, c'est rare, des bonnes analyses de risque qui sont faites, là. Puis pas juste de l'analyse de risque qui est dit sur papier, mais le tester, tu sais. Tester les bugs de logique et de conception. Parce que c'est bien beau de trouver des XSS et des bugs applicatifs. Là. Mais si tu trouves un bug qui bypasse toute la logique, ben, peu importe, tout est brisé. Et c'est ça qui est intéressant. Puis quand on parle de pentest, ben, quand tu veux parler d'un bon pentester, ben, c'est eux qui te parlent de ça. Là. Les autres, ben, ils sont bons peut-être techniquement, mais c'est pas ça que tu recherches. T'sais.
Ouais, puis de toute façon, les erreurs de logique, puis les erreurs de... C'est ça. La couche à faire est la plus facile à contourner parce que c'est là que les
conflits... Ouais. Ça se teste pas automatiquement avec un outil. C'est impossible. Il faudrait que tu développes un outil sur mesure à chaque logiciel. Fait que c'est un genre de unit test intelligent. Fait que oublie ça, là.
Ouais, effectivement. Fait que, yes. Sur ça, on va pouvoir conclure ce sujet-là, sachant que nous allons changer de plateforme parce que un peu déception, malgré que celle-ci était malheureusement facile d'utilisation, mais non sécuritaire, fait que c'est juste un no-go pour nous autres, malheureusement.
Yep.
Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente semaine.
Et à la prochaine.